Alors, Jean, l'évangile de Jean au chapitre 1. Et ce matin, on va regarder en particulier à partir du verset 19. Comme je vous ai dit la semaine passée, on a terminé ce qu'on appelle le prologue, l'avant-propos qu'on pourrait dire, le commencement. Et cela, c'était au chapitre 1, verset 1 à 18. Donc, ça, c'est le prologue de Jean. Maintenant, on va aller dans ce qu'on appelle la première année du ministère de Jésus, du Fils de Dieu. Et cela, c'est à partir du verset 19, chapitre 1, jusqu'au chapitre 4, verset 54. OK? Maintenant, ce matin, on n'ira pas jusque-là, évidemment. On va se rendre jusqu'à environ 34-35. J'ai mis dans votre bulletin ce matin, c'est pour ça que c'est important, ceux qui n'ont pas de bulletin, là, levez encore la main, Michel doit certainement en avoir. Alors, les gens qui n'ont pas de bulletin, laissez votre main levée, Michel, vous allez vous porter un bon bulletin. Là. Ça fait drôle de voir juste Guy et Suzanne sur l'aile droite. L'aile droite est faible ce matin. Si je ne me tourne pas aussi souvent vers vous, ce n'est pas parce que je ne vous aime pas, mais c'est parce qu'il y a plus de monde du bord-là. Mais en tout cas. Bon, voici. Hey, mon frère de la Californie, il vient d'arriver. Salut, Mathieu.
Salut.
Hey, Mathieu, on va peut-être avoir besoin d'un bulletin. Ça fait plaisir de te voir. Ce matin, comme je vous dis, je vous ai mis dans votre bulletin un peu... C'est un genre de calendrier, mais c'est le ministère de Jean-Baptiste. Et comme vous voyez à la colonne de droite, ça part à environ de l'an 25 à 27. Et ça, c'est pas de sa naissance. Hein. C'est à partir où Jean, on a entendu parler de lui dans son ministère. Et vous avez les événements qui se sont produits où Jean a exercé son ministère. Évidemment, c'est dans le lieu, c'est dans le désert de la Judée. Et ensuite, vous avez toutes les références bibliques dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, où on fait référence justement à l'apôtre, pas à l'apôtre, mais à Jean-Baptiste, et aussi certaines références correspondantes à ce qu'on appelle l'Ancien Testament, et aussi Nouveau Testament, mais en dehors des évangiles. Donc, on est toujours dans la partie, ce qu'on va voir ce matin, évidemment, c'est le début de son ministère, et après ça, on va voir l'homme, évidemment, dans son message, un peu plus loin, qu'on va voir aujourd'hui aussi, ce qu'il pensait de Jésus. Hein? Les gens ont dit à Jean, qu'est-ce qu'il pensait de Jésus? Et ensuite, son courage. Évidemment, Jean est mort, la tête décapitée, et évidemment, un courage qu'il avait de proclamer la parole de Dieu. Alors, on va débuter ce matin, et comme je vous l'ai dit, on va aller jusqu'au verset 34. On va parler ce matin du témoignage de Jean-Baptiste. Et dans ce témoignage, j'aimerais qu'on puisse regarder à des choses qui nous concernent, nous. Jean-Baptiste avait ce genre de témoignage. Est-ce que moi, j'ai un témoignage qui reflète celui de Jean-Baptiste? Qui a été celui qui a annoncé le Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, même en 2018, c'est ce que le Seigneur Jésus nous a demandé de faire dans Matthieu 28, 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, c'est important de proclamer la parole de Dieu, mais c'est important aussi notre témoignage. Notre témoignage doit être vrai. Je ne lirai pas tout le passage ce matin, parce que le faute de temps, j'aimerais ça bien lire, mais on se trouve dans Jean 1, on va aller verset par verset jusqu'au verset 34, si Dieu le permet. Et comme introduction ce matin, j'aimerais qu'on réfléchisse sur ceci. Lorsque quelqu'un doit se présenter, supposons que moi j'arrive et je me présente à vous, généralement, ce que je vais faire, c'est que je vais m'empresser de dire qui je suis. Bonjour, mon nom est Denis Arcand, je suis pasteur de l'Église chrétienne évangélique de Hawkesbury. Et pas par vantardise, mais c'est ce que je suis. Mais Jean-Baptiste n'a pas dit ça comme ça. Il n'a pas fait ça comme ça. vous allez voir dans les versets qu'on va voir, il va répondre aux Juifs d'une façon négative, ce que Jean-Baptiste n'était pour. Et ces réponses négatives-là vont avoir comme effet de ne pas contenter ceux qu'ils questionnent. 6 fois, ils vont demander dans un espace peu de temps, « Qui es-tu, Jean-Baptiste? Qu'est-ce que t'es? » Mais là, Jean va démontrer une grande humilité. Et c'est la première chose qui m'a frappé. Est-ce que dans mon témoignage, je demeure humble? Parce que c'est trop facile des fois. « Oh, j'ai un bac en théologie, j'ai ci, j'ai... » Oh, attends une minute, là. Ça, c'est de l'orgueil, souvent. Surtout quand on ne pose pas la question. Hein? On est prompt à vouloir dire « Ah, oh, je suis ci, je suis ça, je suis ci, je suis ça. » Mais Jean-Baptiste a dit « Non, non, non. » Jean n'a pas dit qu'il était le Christ. Il n'a pas dit qu'il était Élie. Il n'a pas dit qu'il était le prophète. Parce que ça, s'il avait dit ça pour se vanter, ça aurait justement confondu les Juifs qui le questionnaient. Jean était de descendance des prêtres, okay, d'Aaron qu'on appelle. Mais il n'a jamais exercé ce qu'on appelait la sacrificature, c'est-à-dire d'aller faire de sacrifices, comme son père l'avait fait. Hein. On voit ça dans Luc 1:5, que Jean était le fils, justement, de Zacharie, et que son père était un sacrificateur. Jean n'était pas non plus un rabbin. Et on remarque ici que Jean n'est pas intimidé par le questionnement des Juifs. Et en plus de ça, il ne tombe pas dans ce qu'on appelle le piège de l'orgueil. Oui, c'est un piège, l'orgueil. Puis, il n'y a pas personne qui peut dire, « Ben moi, je ne suis pas orgueilleux », parce qu'on l'est tous. C'est un péché qui nous a frappés, malheureusement. C'est un péché que, même en tant que chrétien, on doit lutter encore parce que ça fait partie de notre chair. Le piège de l'orgueil. Mais ces Juifs-là qui cherchaient, qu'est-ce qu'ils cherchaient, c'est-à-dire? Le paquet de questions qu'ils ont posées, qu'est-ce qu'ils cherchaient? Et c'est ça qu'on va voir ce matin. Et ça, c'est l'introduction au message. Puis j'aimerais, avant d'aller plus loin, qu'on puisse se courber dans un mot de prière. Seigneur Dieu, ce matin, fais silence dans nos cœurs, parce qu'on peut être distrait par plusieurs choses. Et instruis-nous. Qu'on puisse apprendre les vérités que par la vie de Jean et surtout par la vie de Jésus, qu'on puisse apprendre vraiment à être des personnes humbles et qu'on puisse marcher dans la vérité et non pas tomber dans les pièges qui parfois peuvent décevoir plusieurs, des pièges comme l'orgueil. Seigneur, que nos oreilles puissent entendre et que nos cœurs puissent saisir, Seigneur Dieu, le message de ta parole ce matin. Et qu'on puisse, Seigneur, le comprendre et lui obéir, le mettre en pratique dans chacune de nos vies. Et c'est par Jésus qu'on te prie. Amen. Alors, comme je vous disais, je vais prêcher verset par verset. Et au verset 19, hein, on est toujours au chapitre 1, verset 19, dans quelques secondes, on va aller là. On peut lire ceci. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu? » Ce qui arrive, c'est qu'à Jérusalem, on apprend qu'il y a un homme qui s'appelle Jean, Jean-Baptiste, et cet homme-là exhorte la nation juive, à se repentir en vue de la venue du Messie. Hein, repentez-vous, aplanissez le chemin du Seigneur. Donc, les Juifs, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient un groupe de sacrificateurs, de Lévites, pour vérifier ce qu'il y en est. Hein? Et on doit savoir que ces prêtres-là, sacrificateurs, avaient pour mission d'assurer dans le temple les offices religieux importants. Tandis que les Lévites, eux autres, ils accomplissaient des tâches, qu'on pourrait dire des tâches pratiques. « Toi, qui es-tu? » Hein, on est au verset 19. « Demandèrent-ils. T'es-tu le Messie si longtemps attendu? » Et là, on arrive au verset 20. Il déclara, ça c'est Jean-Baptiste, « Et ne le nia point. » Il déclara qu'il n'était pas le Fils de Dieu. On peut penser que d'autres auraient pu dire une petite menterie ici, là, dire oh, « Oui, c'est moi là, le Fils de Dieu, je suis le Christ. » On dit qu'à la fin des temps, il y en a qui vont se proclamer. Il y en a même qui, à les regarder faire, on dirait qu'ils se prennent pour des sauveurs. Mais Jean, c'était un témoin fidèle. Il n'arrêtait pas de dire qu'il n'était pas le Christ. « Je ne suis pas le Messie. » Et là, dans les versets 21 et 22, ils ont demandé « Qui quoi donc? Es-tu Élie? » Et il dit « Je ne le suis point. » Et là, ils disent « Es-tu le prophète? » Il répondit « Non. » Ils lui dirent alors, « Qui es-tu? » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même? » Hein? Il faut comprendre que ces Juifs-là, ils s'attendaient justement, parce que les Écritures disaient, ils s'attendaient à ce qu'Élie revienne avant le Christ. Et dans Malachie, chapitre 4, verset 5, on peut voir à l'écran, on peut lire « Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Donc, selon eux, si Jean-Baptiste n'était pas le Messie, il faudrait qu'il soit Élie. Mais Jean dit « Non, je ne suis pas Élie. » Puis dans Deutéronome, chapitre 18, verset 15, hein, on peut lire ceci. « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. » Voyez-vous, on n'annonce pas Élie ici, là. Dieu dit « Je vais susciter du milieu de ton peuple, d'entre tes frères, un prophète, vous l'écouterez. » Et là, les Juifs se sont souvenus de cette prédiction. Mais là, ils pensent que Jean pourrait être, justement, le prophète mentionné par Moïse dans Deutéronome. Mais une fois encore, Jean va dire, « Non, je ne suis pas lui. » Et vous allez voir pourquoi tantôt. Donc, les prêtres et les Lévites se trouvaient embarrassés. Et là, ils étaient pas mal embarrassés du fait qu'ils ne pouvaient pas ramener une réponse à ceux qui les avaient envoyés de Jérusalem. Une réponse claire. Et là, à la fin du verset, on peut lire, il demande à Jean, « Dis-nous qui tu es. » Et là, au verset 23, Jean va dire, « Moi, dit-il, je suis la voix. Voyez-vous pourquoi il dit? Il n'est pas le prophète, il est la voix de celui qui crie dans le désert. Et ça, ça m'a frappé. Parce que selon Deutéronome, j'aurais pensé, ben oui, c'est lui le prophète. Il aurait dû dire, c'est moi le prophète. Non. Il est encore plus humble qu'on le pense. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Jean-Baptiste, ici, va citer un passage qui se trouve dans Ésaïe 40, au verset 3. Et ce verset-là affirme qu'un prophète viendra pour annoncer la venue du Christ. Hein? Une voix crie, « Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplatissez dans les lieux déserts, les lieux arides, c'est-à-dire une route pour notre Dieu. » En d'autres termes, ici, Jean-Baptiste déclare être ce précurseur annoncé, la voix qui crie dans le désert. Et Jean-Baptiste était la voix et le désert était Israël. Jean-Baptiste est la voix qui crie au peuple d'Israël à planisser le chemin en vue de l'arrivée du Seigneur. Et à cause de leur péché, de leur endurcissement de cœur, de leur éloignement de Dieu, voyez-vous comment c'est dangereux, hein, de s'éloigner de la parole de Dieu? Le peuple juif était devenu stérile sur le plan spirituel. Il était semblable à un désert. Et Jean-Baptiste parle de lui comme étant juste une simple voix. Il ne se présente pas comme un grand homme dans le but d'attirer sur lui des louanges ou de l'admiration. Il se présente comme une voix. Vous entendez ma voix ce matin? Pas grand-chose, hein? Ça sera enregistré comme vous avez. Le message va être enregistré, là. Pas grave. C'est le message qui compte. C'est la parole de Dieu qui compte. Donc, Jean se présente comme une voix non destinée à être vue, mais seulement à être entendue. Jean était la voix, mais Christ est la parole. Toute une différence. La parole a besoin d'une voix. Hein, la parole de Dieu a besoin d'une voix qui va l'annoncer, qui va la faire connaître. Mais cette voix-là n'a aucune valeur sans la parole. La parole, elle est infiniment plus grande que la voix. Et nous, frères et sœurs, nous qui sommes sauvés, qui avons cru au Seigneur Jésus, mais on a ce privilège-là d'être une voix pour lui, notre Sauveur. Hein? C'est un privilège d'être la voix pour le Seigneur, celle qui annonce la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc, le message de Jean-Baptiste se résumait ainsi. Aplanissez le chemin du Seigneur. En d'autres termes, si je mettrais ça en bon, on va dire, en bon canadien-français, on pourrait dire ceci. Jean disait ceci. Écoutez-moi tous, là. Le Messie s'en vient. Débarrassez-vous de tout ce qui est dans votre vie, de tout ce qui pourrait vous empêcher de le recevoir. Repentez-vous de vos péchés afin qu'il puisse venir et qu'il puisse régner sur vous comme le roi d'Israël. C'est le message de Jean. Maintenant, au verset 24 et 25, on peut lire, « Ceux qui avaient été envoyés, eh bien, ils étaient des pharisiens. Hein? » Et ils lui firent encore cette question, une autre fois, « Pourquoi donc baptises-tu Et si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète, pourquoi? Les pharisiens, c'était une secte juive, qui était très stricte. C'était des gens extrêmement religieux. Et les pharisiens, ils se vantaient de leur connaissance approfondie de la foi, de la loi. Ils connaissaient la loi, eux autres, là. Et aussi, ils se vantaient de leurs efforts à mettre en pratique les moindres petits détails de l'enseignement de l'Ancien Testament. Et on pourrait dire aujourd'hui qu'ils ont multiplié ces petits détails en de multiples lois, sous-lois, sous-sous-lois, en tout cas. C'était des gens stricts, hein, plus catholiques qu'il faut l'être. Catholique, moi, quand je parle de catholique, je ne parle pas de catholique romain, mais je parle de ceux qui font partie de cette religion universelle-là, qui est la religion. On est tous catholiques dans un sens. Méprisez-moi pas avec l'Église catholique, mais on est, autrement dit, toutes les... J'aurais pas dû dire ça, hein? Je ne veux pas vous mélanger, hein? Mais c'est parce que... Hein? On est des chrétiens, mais en tout cas, je ne rentrerai pas dans ce détail-là. On est des chrétiens évangéliques et avec toutes les dénominations que ça comprend. C'est ça que ça veut dire. Donc, les autres cherchaient des petits détails dans la loi. Puis en réalité, c'était juste des hypocrites. Des gens qui essayaient de se donner de bonne apparence pieuse. Mais ils vivaient dans le péché. En somme, ce qu'ils voulaient savoir, justement, de Jean, c'est au nom de quelle autorité, toi, Jean, baptises-tu? Parce que tu ne fais pas partie d'aucun personnage important que nous, on connaît. Élie, prophète, Messie. T'es qui, toi, Jean? Tu ne fais pas partie de notre gang, donc tu n'es pas une personne importante. Et là, au verset 26 et 27, Jean leur répondit ceci. Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Et au verset 27, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Jean dit, moi, je baptise d'eau. Son désir était que personne ne le prenne pour un personnage important. Et son rôle consistait seulement à préparer les hommes à la venue du Christ. Et chaque fois que ses auditeurs se repentaient de leurs péchés, Jean les baptisait d'eau comme un symbole, comme étant juste un symbole de leur changement de vie. C'était un symbole. Mais il leur disait aussi qu'il y avait quelqu'un au milieu d'eux qu'ils ne connaissaient pas, et là, ils faisaient allusion à Jésus. Et là, les pharisiens, vous le savez, ils n'ont jamais reconnu comment ou qui était leur Messie si longtemps attendu. Jésus s'est présenté au milieu d'eux. Il y avait cette identité-là juive, Jésus. Ils ne l'ont pas reconnu. Et encore une fois, je vais paraphraser ce que Jean dit aux pharisiens, c'est « Me prenez pas pour un grand homme ici. Celui auquel vous devrez prêter attention, c'est le Seigneur Jésus. Toutefois, vous ne le connaissez pas. » C'est Jésus qui est digne. C'est celui qui est venu après Jean-Baptiste. Et il mérite toutes nos louanges et toute notre adoration. C'est à lui que reviennent toutes les louanges qu'on a faites ce matin. Toute l'adoration qu'on va lui apporter aujourd'hui, cette semaine. Et Jean dit qu'il n'était même pas digne de délier les lacets des sandales de son maître. Et délier les lacets de son maître, ça appartenait aux tâches d'un esclave, hein, d'un serviteur. Et Jean ne se considérait même pas digne d'une tâche aussi humble pour le Christ. Et là, au verset 28, il va dire, on va lire, c'est-à-dire que ces choses-là se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Donc, on situe où tout cela se passe, où les Juifs sont, hein, ces sacrificateurs-là, les Lévites, où ils questionnent Jean, hein, sur le bord du Jourdain, à Béthanie, c'est-à-dire, au-delà du Jourdain. Et le lieu exact de Béthanie, où Jean baptisait, demeure inconnu. Par contre, cette localité-là se trouvait sur la rive est, qu'on pourrait comparer, du Jourdain. Et dans quelques manuscrits, on peut lire Bethabara. Bethabara, vous avez l'image là, du Jourdain et de Bethabara. Évidemment, c'était pas comme ça dans ce temps-là. Et au verset 29, on arrive à l'histoire en même. Le lendemain, Jean-Baptiste a vu Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc, ça veut dire qu'après la visite des pharisiens, Jésus arrive. Et dans la joie de cet instant-là, Jean-Baptiste va dire, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » L'agneau, on le sait, c'est un animal qui a été choisi et que l'on offrait en sacrifice chez les Juifs. Dieu avait appris à son peuple élu à immoler l'agneau et à répandre son sang en sacrifice. Et cet agneau-là était sacrifié comme substitut, c'est-à-dire un remplaçant. Hein? C'est pas, vous allez voir, c'est pas l'agneau qu'on s'attend là. C'est pas l'agneau parfait. Non, cet agneau-là, cet animal, c'était un substitut, un remplaçant. Et son sang était versé afin d'obtenir le pardon des péchés. Mais dans l'Ancien Testament, le sang des agneaux immolés n'enlevait pas le péché. C'était un sacrifice perpétuel qu'on recommençait à chaque année. Et ces agneaux-là, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils préfiguraient, hein, le jour où Dieu pourvoirait lui-même un agneau parfait, Jésus, qui ôterait véritablement le péché. Et tout au long des siècles, les Juifs pieux y attendaient et y attendent encore la venue de cet agneau-là. Maintenant, enfin, l'heure était venue. Et Jean-Baptiste, ce qu'il faisait, c'est qu'il annonçait d'un ton triomphant, « Voici l'agneau de Dieu. » Il annonçait l'arrivée du véritable agneau de Dieu. Et dans le but de bien comprendre, je vais faire une petite explication aussi. Quand Jean-Baptiste affirme que Jésus portait le péché du monde, a porté le péché du monde, il ne voulait pas dire que les péchés de tout et chacun étaient pardonnés. Je m'explique en disant cela. La mort de Christ est d'une valeur suffisante pour payer tous les péchés du monde entier. Mais seulement les péchés de ceux qui reçoivent le Seigneur Jésus comme leur sauveur, seulement ces péchés-là sont pardonnés. Les péchés, la valeur du sacrifice de Jésus-Christ à la croix est suffisante pour payer pour tous les péchés du monde entier. Mais seulement les péchés de ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme leur sauveur personnel sont pardonnés. Sans cela, tout le monde irait au ciel. Tout le monde pourrait dire devant Dieu, « Hey, mes péchés sont pardonnés par Jésus-Christ. » Non. Tu n'as pas cru que tes péchés seraient pardonnés, tu t'en vas à l'enfer. J.C. Jones souligne que ce verset-là, hein, met en valeur l'excellence de l'expiation de Christ. Trois points. Premièrement, elle excelle dans la nature de la victime. Tandis que le judaïsme, les sacrifices étaient des agneaux. Dans le judaïsme, les sacrifices étaient des agneaux sans tache. Mais dans le christianisme, le sacrifice est l'agneau parfait de Dieu. Deuxièmement, elle excelle dans l'efficacité de l'œuvre. Tandis que dans le judaïsme, les sacrifices ne faisaient que rappeler le péché chaque année. Dans le christianisme, le sacrifice ôte le péché pour toujours. Hein? Il ôte le péché par le sacrifice de lui-même. Jésus ôte le péché par le sacrifice de lui-même. Et enfin, troisièmement, elle excelle dans l'étendue de ses effets. Tandis que dans le judaïsme, les sacrifices n'étaient destinés qu'au bénéfice d'une seule nation. Dans le christianisme, le sacrifice vise toutes les nations. Il ôte le péché du monde. Pas seulement des Juifs, pas seulement des Canadiens, pas seulement des Blancs. Tout le monde a le droit à entendre l'Évangile, à croire à l'Évangile. Versets 30 et 31. Je vais accélérer un petit peu parce que je ne veux pas trop dépasser dans mon temps. On peut dire, « C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean ne s'est pas lassé de rappeler aux hommes que lui-même préparait seulement le chemin pour quelqu'un de plus grand que lui et dont la venue était imminente, évidemment. Jésus était plus grand que Jean dans la mesure où Dieu est plus grand que l'homme. Donc, Jean-Baptiste est né quelques mois avant Jésus, 6 mois, mais Jésus, lui, existait de toute éternité. Quand Jean-Baptiste affirme « Je ne le connaissais pas », il ne veut pas dire qu'il ne l'avait jamais vu auparavant. Et suivez-moi bien, là. Ils étaient des cousins. Ils ont joué ensemble, ils se sont visités. Et c'est probable que Jean-Baptiste et Jésus se connaissaient très bien. Mais Jean-Baptiste n'avait pas reconnu dans son cousin ou son cousin comme étant le Messie jusqu'au moment où il l'a vu venir pour qu'il se fasse baptiser. C'est là, quand il dit « Je ne le connaissais pas, je ne connaissais pas que lui, mon cousin, serait le Messie. » Et la mission de Jean-Baptiste consistait à préparer le chemin du Seigneur puis à le désigner au peuple d'Israël lorsqu'il serait venu. Et ce fut pour cette raison-là que Jean-Baptiste baptisait d'eau, afin de préparer justement les gens à la venue du Seigneur Jésus et non pour attirer des disciples pour lui-même. Verset 32. Donc, Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Ce passage-là se rapporte justement à l'occasion où Jean-Baptiste a baptisé Jésus dans le Jourdain. Et quand le Seigneur a sorti de l'eau, l'Esprit de Dieu a descendu sur lui comme étant, comme sous forme de, comme une colombe, OK? Et il s'est arrêté sur lui. Dans Matthieu 3, 16, que vous pouvez voir, on peut lire, « Dès que Jésus a été baptisé, il est sorti de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. » Jean, qui est l'auteur de l'Évangile, pas Jean-Baptiste, va expliquer justement la signification dans les versets qui suivent de l'événement. Et au verset 33, on lit ceci. Jean dit encore une fois, Jean-Baptiste, « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé, baptisé d'eau, celui-là m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » C'est Dieu qui a révélé à Jean que le Messie allait venir et que lors de sa venue, l'Esprit descendrait sur lui et s'arrêterait sur lui. Par conséquent, c'est-à-dire, quand cet événement s'est produit, Jean-Baptiste réalise que Jésus était bien celui qui baptiserait du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, vous le savez tous, j'espère, c'est la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit est égal à Dieu le Père, il est égal à Dieu le Fils. Et tandis que Jean baptisait d'eau, Jésus, celui qui vient, lui va baptiser du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit a eu lieu le jour de la Pentecôte. Il y a trois passages ici que je ne lirai pas, mais Actes 1, 5, Actes 2, 4 et Actes 2, 38. C'est l'événement qui s'est passé. Hein? Actes 2, 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Les disciples qui étaient réunis là, dans la salle haute. Et là, ils se sont mis à parler en langue, mais des langues, pas des langues tout croche, là, des vraies langues, des langues que tout le monde pouvait comprendre, selon l'Esprit, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et là, Pierre, évidemment, annonce, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » Là, il parle du baptême de repentance, et évidemment, pas juste le baptême que Jean baptisait, mais soyez baptisés comme témoins, comme vous avez cru au Seigneur Jésus, la même chose que lorsqu'on baptise quelqu'un ici. À cette époque-là, le Saint-Esprit a descendu du ciel pour demeurer dans le corps de tout croyant. Et aussi pour faire de chaque croyant, comme on est aujourd'hui, chacun qui sont sauvés ici ce matin, membre du corps de Christ, c'est l'Église. 1 Corinthiens 12, 13. Hein, nous avons tous en effet, été baptisé dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Finalement, le verset 34, « Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Donc, sur la base de ce que Jean-Baptiste a vu lors du baptême de Jésus, Jean rend témoignage. Un témoignage que je pourrais appeler positif au fait que ce Jésus de Nazareth-là était le Fils de Dieu. Qu'il est le Fils de Dieu encore. Et dont la venue dans le monde avait été annoncée longtemps d'avance dans l'Ancien Testament. Et quand Jean-Baptiste affirme que Christ était le Fils de Dieu, il voulait dire qu'il était Dieu le Fils. Là, j'ai une conclusion, puis il est déjà 11h05, parce que vous allez me dire, qu'en est-il? Moi, je voulais vous poser la question, qu'en est-il pour vous? Qu'est-ce que ça me dit à matin, moi, ce message-là? Donnez-vous 5 minutes. J'espère que vous n'avez rien sur le voile qui est en train de vous le lire. Jean-Baptiste nous parle des circonstances du baptême de Jésus. Dans le seul but de nous déclarer que Jésus est véritablement le Fils de Dieu. Et la preuve qu'il nous donne, c'est la descente du Saint-Esprit sous la forme d'une colombe et le fait que cette colombe-là est demeurée sur Jésus. Dieu lui avait dit, hein, on peut lire dans Jean 1, verset 33, la deuxième partie, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » C'est Dieu qui dit ça à Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste va interpréter ce signe-là très justement quand il en déduit que lui, il est celui qui a vu, verset 34, et celui qui est capable de rendre témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Parce que qui d'autre aurait la possibilité de baptiser du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit s'est manifesté de nombreuses façons dans l'Ancien Testament. Mais dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit agissait seulement d'une façon intermittente. Il allait, il revenait. Il allait, il se retirait de la personne. Et pour ça, il y a deux passages, hein? Juges 14:6, Juges 14:19, on parle de Samson aussi. Hein? Et là, on peut lire au verset 14:6 que le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel, a saisi Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Et là, on lit un peu plus loin, dans Jean 14:19. Juges 14:19. L'Esprit de l'Éternel le saisit. Mais oui, mais pourquoi tu l'as saisi une autre fois? Parce qu'à la première fois, après qu'il l'eut saisi, il s'est retiré. Et l'Esprit de l'Éternel le saisit, au verset 19, et il descendit à Ascalon, et il tua 30 hommes. Donc, l'Esprit était intermittent. Maintenant, plus tard, le jour de la Pentecôte, le véritable baptême du Saint-Esprit a lieu pour former l'Église et la constituer en un seul corps. Et c'est alors sous la forme de langue de feu, symbolisant la purification de ce qui devait être, de ce qui se produit dans le cœur de chaque croyant lorsque l'Évangile nous frappe, lorsque l'Esprit-Saint nous parle et que cette parole devient une parole, cet appel-là, je devrais dire, devient un appel irrésistible. Comprenez ceci encore une fois ce matin. Comprenons ceci. Jésus, en Jésus, tout est pur et parfait. Lorsque j'ai demandé pardon pour mes péchés, je suis pardonné parfaitement. Mon passé, mon présent, puis tout mon avenir. Oh, je vais pécher encore, mais de moins en moins. Puis, j'aurais plus besoin de demander pardon pour mes péchés parce qu'ils sont déjà pardonnés. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de les confesser. C'est vrai, Jésus, mon tempérament aujourd'hui n'est pas correct. Je sais que tu m'as pardonné. Maintenant, je te le confesse et je te demande de m'aider à ne plus faire. Le baptême du Saint-Esprit a introduit une nouvelle ère, l'ère de l'Église, le Nouveau Testament, l'ère de l'Esprit, le Consolateur promis. Et les deux versets qui sont là, on les a vus tantôt, mais vous pouvez les prendre en note. Et cette semaine, justement, le message va être sur notre site, Dieu voulant, et vous aurez l'opportunité de pouvoir y retourner et remâcher encore les paroles du Seigneur, pas les miennes, celles du Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps béni avec l'Église. Merci pour ta parole. Merci pour ton évangile, Seigneur. Merci pour Jésus, l'agneau parfait de Dieu, qui nous baptise lorsque nous croyons en lui, de l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, lorsque si ton message, Seigneur, porte fruit dans le cœur de quiconque ici ce matin, qu'il puisse ressentir cette joie d'être pardonné complètement et d'avoir l'assurance que ton Consolateur, l'Esprit Saint, vit en lui. Jusqu'à ton retour, par Jésus, on te prie. Amen. Ce matin, avant que nos musiciens se présentent, j'aimerais qu'on puisse... je vais faire ça rapidement, Stéphanie, juste parce que j'aimerais que Roland, Nicole et puis Jean-Philippe puissent lire en avant. Ces personnes-là ont demandé de devenir des membres de l'Église. Ils ont tous lu le cours de membre ou le. Je pense qu'ils ont tout accepté. Puis là, vraiment, la soeur, on a fait oublier de faire les photocopies. Il aurait fallu faire pareil, mais il faut signer. Mais vous êtes ce matin, Jean-Philippe, Roland, Nicole, reçus officiellement membre de l'Église chrétienne évangélique de Hawkesbury. Nicole et Roland arrivent de notre Église évangélique, de l'Église apôtrière. Et le témoignage que M. Lemoine, leur pasteur, m'a donné d'eux est très bien. Vous connaissez Jean-Philippe. Et Jean-Philippe, ça fait plusieurs années qu'ils sont parmi nous et travaillent maintenant ardument avec les enfants à l'école du dimanche. Puis veut s'instruire dans la parole de Dieu. Donc, avec soit Sembec ou d'autres cours, on va pouvoir. Former ce jeune homme à devenir un jour, on a pris pour ça, comme Mathieu, hein? Mathieu, c'est notre serviteur. Tellement content qu'il est revenu, mon frère. Non, mais tiens, on va prier pour que tu. Vous allez avoir un content. Un bonjour, il faut que je pour mon fils du père pour témoigner de ça. Moi, ça ne me fait rien, il faudra passer à ce après-midi, si tu veux raconter ça. Alors, je vais demander à Serge et Marc, qui sont nos anciens ce matin, je vais demander à Michel aussi, et on va juste se coller. On va se prendre par la taille et on va prier pour vous autres. Parce que Satan, là, il est là, puis il nous achalait. Papa éternel, quelle joie ce matin pour l'Église de recevoir comme membre Jean-Philippe, Roland et Nicole. Père, on sait qu'à chaque fois qu'on s'affiche, soit comme membre, soit comme étant des personnes qui t'appartiennent, comme chrétiens, l'adversaire est là pour nous faire tomber. Et Seigneur, je sais que des fois, il va peut-être réussir, mais il ne gagne pas parce que c'est toi qui as vaincu à la croix sur le calmont du calvaire, Seigneur Dieu. Tu as défait Satan pour l'éternité. Pose tes bonnes mains sur eux, Seigneur Dieu, bénis-les et fais-en de bons serviteurs pour ton Église, Seigneur Dieu, et pour les frères, les sœurs de l'Église. Et c'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Alors, félicitations. Hein? Aux musiciens de bien vouloir s'avancer. Je pense qu'à ce moment-ci, on va se préparer pour l'offrande. L'offrande, c'est un acte d'adoration aussi. Et les membres de l'Église sont libres de donner avec joie. Et ceux qui sont ici ce matin, même s'ils ne sont pas membres, s'ils veulent, évidemment, ce n'est pas obligatoire de participer à l'offrande. Je vais demander à Michel de prier. Et ensuite, nous sommes sur la table, Michel. Amen. Alors, dans les versets que vous pouvez lire, deux versets de l'Ancien Testament qui nous disent « C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel. » C'est Dieu qui parle ici. « Sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël, et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. » Et à la fin de l'Ancien Testament, dans Malachie 3:10, on peut lire que le Seigneur dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas sur vous, pour vous, c'est-à-dire les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » À ce moment-ci, j'aimerais savoir s'il y a quelques personnes qui auraient de quoi témoigner ou requête de prière. On a demandé tantôt de prier pour ceux qui sont malades et en particulier la soeur, la femme, l'épouse, c'est-à-dire de notre frère Luc Séguin. Et tous ceux qui sont malades. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient partager? Oui, vas-y, ma belle-sœur.
Moi, c'est pour j'aurais besoin de prière pour le 29 de mars, je ne vais pas opérer.
Tu te fais opérer, hein?
Oui,
ça s'en vient vite, ça. Mais amen. Il faut que tes. Comment tu veux dire ça? Tes plaquettes, hein, soit. OK, on va prier pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je sais que Mathieu a de quoi partager, mais...
Un autre tantôt.
Alors, à ce moment-ci, on va se lever et on va terminer notre rencontre ce matin avec un beau chant. « Nous voulons voir Jésus élevé. »